Nous traiterons aujourd'hui la parabole de Lazare et l'homme riche, étude numéro 228. La parabole de Lazare et de l'homme riche a été utilisée par le christianisme traditionnel sous quelques fausses prétentions. Elle a été utilisée pour appuyer la doctrine de l'âme immortelle et aussi pour soutenir les doctrines du ciel et de l'enfer en tant que demeure des morts. Que signifie cette parabole? À qui a-t-elle été adressée? Pour comprendre la parabole de Lazare et de l'homme riche, et aussi les raisons pour lesquelles Christ a donné cette parabole, et à qui elle était adressée, nous devrions d'abord examiner l'histoire de Lazare. Nous trouvons ici des messages et des enseignements qui sont au cœur des doctrines de l'Église, et aussi du message de Christ aux Juifs. Cette histoire ne concerne pas et ne peut pas soutenir les doctrines de l'immortalité de l'âme, ni l'existence du ciel et de l'enfer en tant que demeure des morts, comme nous allons le voir. Tout d'abord, voyons l'histoire de Lazare. Cette histoire, bien connue, se trouve au chapitre 11 et 12 du livre de Jean. Ce miracle a été le miracle fondamental qui a incité les Juifs à vouloir la mort du Christ. Nous voyons dans cette histoire une activité et un plan délibéré du Messie. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1 à 4. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Version Louis II. Dans ce passage, nous voyons que le Messie a agi, selon un plan délibéré, pour la gloire de Dieu, et pour sa propre identification en tant que le Fils de Dieu. Vraiment, ce fut ce miracle qu'il a identifié en tant que le Messie, et à partir duquel le souverain sacrificateur Caïphe a basé sa prophétie. Marie, dans ce texte, adresse directement une intercession au Messie en faveur de son frère, basée sur son amour pour lui. Le texte montre clairement que le Messie avait une grande affection pour la famille entière. Pourtant, nous voyons que lorsqu'il a entendu que Lazare était malade, il a attendu 2 jours avant qu'il se rende à Béthanie, en Judée. Il y était en danger, parce qu'ils avaient déjà tenté de le lapider. Les disciples le savaient, comme nous voyons à partir du verset 8. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 5 à 8. « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Version Louis II. Jésus n'avait pas peur, et ce n'était pas la raison pour laquelle il y est allé. Il a parlé de la lumière du monde. Il a aussi parlé dans ce passage de la longueur du jour. Il a fait référence au jour et à la nuit, et aux conditions spirituelles de la lumière et des ténèbres. Nous poursuivons la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 9 à 11. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Version Louis II. Il a parlé de sommeil dans ce passage, mais en fait, il voulait dire la mort. Il démontrait que Lazare était un type de l'Église. Pour l'Église, la mort était simplement un sommeil en attendant la résurrection. Par cet acte, il faisait allusion à la résurrection de l'Église à l'avènement du Messie. Les disciples ne comprenaient pas encore ce message, ni se sont-ils doutés de ce qu'il allait faire. Ils considéraient que Lazare était béni s'il était capable d'avoir un bon sommeil. Nous poursuivons dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 12 à 13. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Version Louis II. Cependant, il n'était pas endormi, il était mort, et Christ leur a alors fait clairement comprendre. Nous poursuivons dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 14 à 16. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Version Louis II. Le Messie fait clairement comprendre dans ce passage qu'il ne voulait pas être là, car cela aurait limité la démonstration de sa puissance dans la résurrection des morts. Cela ne ressort pas clairement du commentaire de Thomas, si Thomas était sarcastique ou non. L'absence d'indication d'ironie dans le grec signifierait plus probablement que Thomas, le jumeau, a vu immédiatement le potentiel de la résurrection et l'intention du Messie de faire un miracle important. Ils sont partis après suffisamment de temps pour que Lazare soit resté pendant 4 jours dans la tombe. Il était ainsi légalement mort, en excédant de la période de 3 jours. Béthanie était aussi à environ 3 kilomètres de Jérusalem, de l'autre côté du mont des Oliviers. Donc, ceci était une occasion importante de témoigner aux Juifs de Jérusalem et du Temple. Nous poursuivons dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 17 à 19. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Version Louis II. Ils étaient avec Marie et Marthe. Pourtant, ce fut Marthe uniquement qui est venue à Christ avec l'expression de foi en sa puissance sur la résurrection. L'ajout du mot « encore » dans certaines versions de la Bible, comme la King James Version et la RSV, Revised Standard Version, n'existe pas dans le texte grec et fait une implication contre Marie qui ne peut être justifiée. Il est plus probable qu'elle devait s'occuper de ses autres invités et des pleureurs. Nous poursuivons au verset 20 à 28 de l'Évangile de Jean, chapitre 11. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dans ce passage, nous voyons la vraie raison pour laquelle Marie est restée à sa place. Marthe l'a appelée et informée secrètement. La raison est alors claire. Elle ne voulait donner aucune indication de la présence de Christ, car cela pouvait donner lieu à un autre incident de lapidation, ce qui semble être l'allusion de Thomas. Marie a immédiatement réagi. La foi des deux femmes en la puissance du Messie en tant que le Fils de Dieu sur la mort dans la résurrection est la question centrale. Marie était évidemment aussi très attristée. La réaction des invités confirme ce point. Nous poursuivons dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 29 à 32. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie, dans la maison, et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Version Louis II. Nous avons dans ce passage le reproche de tristesse et de foi en la puissance du Christ, mais pas encore concernant le pouvoir de la mort. Le Messie a frémi en esprit face à ce problème à cause de son effet sur Marie. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 33 à 36. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Version Louis II. Le mot grec « embrimaomi » dans ce passage ne devait pas être le mot « frémir ». Mais s'ébrouer comme fait un cheval, et de là exprime une émotion forte d'indignation, de crainte et de colère. Cette forte émotion est montée jusqu'aux larmes. L'expression qui suit est probablement le résultat des pensées et des émotions que Christ avait et qui ont causé ces émotions. Le fait d'exprimer ce sentiment de nouveau lui a causé du souci. Nous poursuivons la lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 37 à 38, et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Version Louis II. Ce processus en entier faisait allusion à la mort future des élus par la persécution et le martyre au cours de la période entière jusqu'à l'avènement. Lazare était un type de l'Église. Ses disciples, comme aussi le monde entier, étaient condamnés à la mort à cause de l'échec d'Adam. Il reviendrait à la vie par son entremise et par l'avènement postérieur de l'Esprit-Saint à la Pentecôte. Par l'entremise du Messie, le deuxième Adam, il connaîtrait la résurrection. Cependant, en tant que ses disciples, le monde chercherait à les mettre à mort comme ils l'ont mis à mort. Ce processus devait continuer plus ou moins sans restriction jusqu'à ce qu'il revienne pour sauver ceux qui l'attendraient avec impatience. La première fois, il est venu pour s'occuper du péché. Il a vu en vision future à travers les jubilés jusqu'à son retour, et cela était la cause de la détresse du Messie. Il pouvait ressusciter Lazare, mais la mort des élus était l'affaire de Dieu, comme l'était sa propre mort. Nous procédons maintenant à la description du miracle lui-même. Marthe a reçu les instructions, bien qu'elle ait exprimé la foi en sa puissance et qu'elle lui ait demandé de réaliser le miracle. Une fois venu le moment qu'il s'accomplisse, elle n'a pas compris ce qu'il allait faire. C'est ainsi qu'est reflétée la condition spirituelle de l'Église dans les derniers jours, avant le retour du Messie et la première résurrection des élus. Nous poursuivons la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 39 à 40. Jésus dit « Ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Dans ce passage, le Messie lui a reproché de ne pas se rappeler la promesse qu'il lui avait faite. Ceci est aussi le problème de l'Église durant les derniers jours. Marthe est le type de l'Église au travail, préoccupée par les soucis du monde, perdant de vue la promesse de Dieu et l'avènement très prochain du roi dans la gloire et dans la manifestation de puissance. Nous poursuivons la lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 41-42. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Version Louis II. Nous voyons dans ce passage que la discussion est enregistrée, non pas pour l'éducation de Dieu, mais pour la nôtre. Le message est pour démontrer la puissance du Messie en tant que le Fils de Dieu, et aussi pour démontrer la fonction de la prière et de notre relation avec Dieu qui entend toujours. Nous poursuivons la lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 43 à 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Version Louis II. Ceci doit avoir été une situation très émouvante. La tentation, bien sûr, était que ceux qui n'avaient aucun préjudice l'ont accepté à sa juste valeur, et ceux qui étaient dans la poche du sacerdoce ont trouvé à critiquer. Nous poursuivons la lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 45 à 46. Plusieurs des Juifs, qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ceci a ensuite conduit aux actions de la Pâque. Ils ont vu qu'ils devaient agir. Si les hommes croyaient en Christ, alors le sacerdoce n'avait plus sa place, parce que son message menaçait leur position. C'est encore le problème avec Judas aujourd'hui, même jusqu'aux laïcs, parce que le salut est parvenu aux païens. Nous poursuivons la lecture au verset 47 à 48 de l'Évangile de Jean, chapitre 11. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. » Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Version Louis II. Dans ce passage, nous voyons la consternation du souverain sacrificateur à l'épouvantable ignorance de son propre peuple. Il ne comprenait pas les Écritures saintes qui exigeaient que le Messie devait mourir en tant que le sacrificateur Messie d'abord, avant qu'il ne puisse venir en tant que le roi Messie. Il leur a parlé dans l'Esprit Saint agissant par Dieu. Nous poursuivons à partir du verset 49 à 52. De l'Évangile de Jean, chapitre 11. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est donc dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Version Louis II. Dans ce passage, nous voyons que ce n'était pas pour la nation de Juda simplement, mais pour les enfants de Dieu qui étaient dispersés à l'étranger. Ainsi, il était implicitement entendu que les tribus ont été dispersées et que le salut a aussi été étendu au-delà de Juda et du sacerdoce lévitique. À cause de cela, ils ont fait ce qu'ils ont toujours fait aux prophètes et ce qu'ils ont essayé plus tard de faire à l'Église. Ils ont cherché à le tuer. Nous poursuivons versets 53 à 54 de l'Évangile de Jean chapitre 11. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Version Louis II. Ce n'est pas par hasard que le Messie est ensuite allé de là, à la ville d'Éphraïm. Il symbolisait que la puissance de l'Esprit-Saint allait être prise et donnée à une nation montrant les fruits du royaume de Dieu et de l'Esprit-Saint. Nous poursuivons à partir du verset 55 à 56 de l'Évangile de Jean chapitre 11. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres, dans le temple, « Que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête ?» Version Louis II. Ce processus de purification a eu lieu conformément à la loi. La sanctification des simples et des gens erronés a eu lieu le septième jour du premier mois. La mise à part du Messie en tant que l'agneau a eu lieu le dixième jour. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, au verset 57. Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara, afin qu'on se saisît de lui. Version Louis II. Nous reprenons l'histoire six jours avant la Pâque à Béthanie. Ceci se passait à la maison de Lazare avec ses sœurs. Ainsi, nous voyons que Marie est celle qui l'a oint avec de l'huile à la suite du miracle de la résurrection de son frère. Elle a aussi compris qu'il devait mourir à cause de ce miracle. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 1 à 6. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Version Louis II. Judas a été pris par ses propres désirs. Il était charnel, et il voulait un Messie qui gouvernerait et lui donnerait le pouvoir en ce temps-là. Il n'était aucunement différent de la multitude des télé-évangélistes et des ministres qui prolifèrent dans le monde anglophone, et en particulier aux États-Unis d'Amérique. Il a trahi le Messie parce qu'il savait qu'ils allaient tous être persécutés. L'Église de Dieu a été infestée de ces changeurs du Temple pendant des siècles. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 7 à 11. « Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux, à cause de lui, et croyaient en Jésus. Version Louis II. Lazare était la preuve du miracle, et il a aussi dû mourir. Lazare était le type de l'Église, et il a été persécuté pour sa relation avec le Messie et le témoignage qu'il a donné. Le jour suivant était le cinquième jour avant la Pâque ou le dixième jour du mois. Il a été mis à part en tant que l'agneau à partir de ce jour. Il a été salué comme roi par ceux qui avaient vu les miracles qu'il a faits. Ils s'attendaient à ce qu'il agisse comme un roi Messie, non pas comme un sacrifice. Nous poursuivons la lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Version Louis II. Les pharisiens qui plus tard sont devenus le système rabbinique ont vu la menace envers leur position. La compréhension de l'avènement du sacrificateur Messie était déjà maintenue par les Esséniens. Les Zélotes semblent avoir été associés avec eux de ce que nous savons aujourd'hui à partir des découvertes dans le Géniza à Masada. Les événements avaient été rapportés jusqu'à la diaspora et le peuple demandait à le voir. C'était pour le Messie une indication que le moment était venu. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 20 à 26. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Version Louis II. Le même message est donné ici à l'Église par le témoignage et la mort en avait porté beaucoup de fruits. Ainsi de même, nous portons les fruits de nos sacrifices en tant que chrétiens. Personne ne peut nous sauver des devoirs qui sont placés sur nous en tant qu'Église. Lazare a dû mourir à cause de son implication avec Christ, mais la signification était que lui et tous les autres savaient que le Messie avait la puissance de le ressusciter des morts quand le temps serait venu sous la direction du seul vrai Dieu. Nous poursuivons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 27 à 29. « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Version Louis II. Aucun homme n'a jamais entendu Dieu, et la réponse est fournie dans le texte. Un ange a parlé afin que le témoignage soit donné aux hommes de l'implication et du contrôle du Père dans cet événement. Nous poursuivons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 30 à 33. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Version Louis II. Dans ce passage, nous voyons la prophétie concernant le prince de ce monde qui est jeté au dehors. Il a ensuite été jeté sur terre et il a poursuivi la femme avec colère. Christ savait qu'il devait mourir. Il montrait ainsi le contrôle que Dieu avait exercé dans cette affaire. Nous poursuivons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 34 à 36. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ?» Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Version Louis II. Les gens commençaient à mettre en doute ce que Christ disait. Il ne voulait pas un Fils de l'homme qui allait être crucifié. Il voulait un Fils de Dieu qui serait victorieux. Il voulait être libéré du joug romain et aussi des taxes et de mythes. Nous poursuivons la lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 37 à 41. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Version 8 secondes. Cet exemple servait à montrer que les élus étaient un petit nombre choisi. Il avait été prophétisé qu'il serait un petit nombre d'élus. Judas devait perdre sa position pendant presque 2000 ans. Seulement quelques individus réussiraient à faire partie du système du Messie en tant qu'élus. Plusieurs souffriraient comme Lazare. Plusieurs des chefs, des aristocrates, qui étaient aussi des Sadducéens, ont cru au Messie. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 42 à 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Version 8 secondes. Le problème fondamental dans l'Église a été que plusieurs de ceux qui entrent aiment l'éloge des hommes plus que l'éloge de Dieu. Ceci a été la cause d'une théologie plus fracturée. La croyance est que ceux qui croient en Christ ne croient pas en lui, mais en Dieu qui l'a envoyé. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 44 à 45. « Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Version 8 secondes. Cette vue et ce texte ne sont pas compris par le christianisme dominant. Christ ne juge pas ceux qui entendent, mais qui ne croient pas parce qu'ils ne sont pas encore sous le jugement. Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Par conséquent, leur période de jugement n'est pas encore arrivée. Seulement la maison de Dieu est sous le jugement, maintenant. Nous poursuivons l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 46 à 48. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Version 8 secondes. Ainsi, leur jugement a eu lieu au dernier jour. Ils seront jugés par rapport à la parole de Dieu. Leur jugement est un jugement de décision et de correction, soit du mot grec « krisis ». Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 49 à 50. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Version 8 secondes. Le Père commande ce que le Messie doit dire et ce que nous devons tous dire. Ne pensez pas à ce que vous allez dire, cela vous sera donné. De même que Lazare a été ressuscité, aussi Dieu allait ressusciter Jésus-Christ. La scène a été ainsi préparée pour l'événement le plus marquant de l'histoire humaine. Les détails, à savoir la crucifixion et la résurrection, sont donnés dans l'étude « Le moment de la crucifixion et de la résurrection », étude numéro 159, que vous pouvez consulter gratuitement sur le site ccg.org. Voyons maintenant la parabole. Nous continuons maintenant à examiner la parabole de Lazare et de l'homme riche à la lumière de l'histoire de ce récit de Lazare, qui est lui-même au cœur de la résurrection. La parabole est trouvée dans l'Évangile de Luc, chapitre 16. La parabole fait suite, en fait, à une parabole précédente. Les deux se rapportent aux pharisiens et au système judaïque. Nous les examinerons toutes les deux pour comprendre pleinement ce que Christ disait. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 1 à 2. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Version 8 secondes. Dans ce passage, le Messie pointait le sacerdoce qui avait l'intendance des oracles de Dieu. Voir l'étude des oracles de Dieu, étude numéro 184. Ils avaient échoué dans leur intendance et elle devait leur être retirée. Ils ont alors élaboré un plan visant à pervertir les lois de Dieu et de rendre leur position plus acceptable dans la communauté du monde. Ils l'ont fait plus tard par la destruction de pratiquement chacun des aspects des lois de Dieu. Le calendrier a été modifié pour s'assurer que rien ne pourrait être observé au bon jour. Et ils s'en sont pris à l'Église, qui était la promesse de l'Alliance, et ils ont essayé de la détruire. Nous poursuivons dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 3 à 9. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Version 8 secondes. Dans ce passage, le Messie faisait une distinction dans la foi entre ceux des élus et ceux de ce monde. Il y a une trace de naïveté qui se trouve dans les enfants de lumière. Les injustes sont appelés, mais non choisis, et par conséquent, ils sont destinés à échouer. Ils ne sont pas sous le jugement maintenant, et de là le commentaire de Christ. Les élus sont éprouvés dans leur intendance, comme l'étaient les Lévites et les Pharisiens. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, versets 10 à 12. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Version 8 secondes. Le message dans ce passage était que les Lévites et les Pharisiens avaient été infidèles dans les lois de Dieu. L'autorité était effectivement enlevée de Judas et de son leadership. Pour cette raison, ils ont d'abord ridiculisé le Messie et ils l'ont ensuite tué. Nous poursuivons la lecture dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 13 à 18. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Version 8 secondes. Dans ce passage, nous voyons la distinction dans la structure de la loi et des prophètes et la déclaration du royaume de Dieu. Judas et le sacerdoce lévitique ont été enlevés de ce royaume. Seulement quelques individus y ont été contraints. Les pharisiens ont entendu ces paroles de Christ et ils l'ont ridiculisé. Ensuite, il a donné la parabole de Lazare, qui était une parabole de l'Église, ainsi qu'une prophétie de la résurrection de Lazare et de la relation entre Christ et l'Église. Nous poursuivons la lecture au verset 19 à 21 de l'Évangile de Luc, chapitre 16. « Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. » Version du second. Souvenez-vous aussi, dans ce passage, que l'Église a terriblement été persécutée par les Juifs au Moyen-Orient, au cours des premiers siècles, partout où ils avaient le contrôle. Pour ces raisons, ils ont été envoyés en captivité et dispersés. Ils ne voulaient pas se repentir, et ils ne se sont pas repentis. La parabole commence avec un thème centré sur Abraham et puis utilise un symbolisme pictographique pour expliquer la relation variable autour de l'homme riche qui aimait les richesses injustes, entre parenthèses mammon, mentionnées dans la parabole précédente. Lazare est mentionné de nom dans ce passage à mesure que l'histoire se développe. Nous poursuivons dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Version 8 secondes. Le concept dans ce passage vise la première et la deuxième résurrection. Lazare a été porté au sein d'Abraham, l'homme riche est mort et il a été enterré. Les enfants d'Abraham sont expliqués dans le texte concernant les élus, ils sont la postérité d'Abraham. Nous lisons dans Galates, chapitre 3, verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Version 8 secondes. Paul a traité de ces concepts dans l'Épître aux Romains, à partir de la fin du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Nous lisons dans Romains chapitre 10, à partir du verset 1 à 9. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce processus fait la distinction entre les fils d'Abraham, des élus, symbolisés par Lazare, et ceux qui étaient de la lignée d'Abraham, mais qui n'étaient pas d'Israël, mais de Mammon et de la deuxième résurrection. La fonction de l'histoire dans ce passage est la résurrection des morts. Nous poursuivons dans l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 23 à 24. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Version Louis II. Le grec « tou hade » ici est la tombe. C'était l'endroit à partir duquel la résurrection a eu lieu. L'histoire montrait que le système judaïque était confiné à la deuxième résurrection spécifiquement mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 20. Ceci a lieu à la fin du millénaire. Ceci est la résurrection de toute la maison entière d'Israël mentionnée dans Ézéchiel chapitre 37 verset 11, et cette résurrection est dans la chair. Nous poursuivons l'évangile de Luc chapitre 16 à partir du verset 25 à 26. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Version Louis II. L'histoire dans ce passage vise deux autres paraboles. La première est celle sur les brebis et les boucs, où les nations sont jugées selon le traitement qu'elles ont donné aux élus. La deuxième vise les élus, qui sont raffinés par le feu dans la persécution que nous voyons au chapitre 1 à 6 de l'Apocalypse. Le grand abîme en question est la séparation causée par l'échec de la chair et du sang à hériter le royaume de Dieu. Judas, sous le sacerdoce lévitique, ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi Paul dit qu'ils ont du zèle, mais pas selon la connaissance. Dans ce passage, nous arrivons au point central de la parabole. On demande que Lazare soit envoyé à la maison de ses pères, qui est bien sûr Judas. La réponse de la bouche d'Abraham est la clé, de même que les cinq frères. Nous lisons dans Luc, chapitre 16, à partir du verset 27 à 28. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Version Louis II. Les cinq frères de Judas sont les fils de Léa. Elle a eu sept enfants, entre parenthèses six fils et une fille, comme nous le savons. Les cinq frères de Judas sont Ruben, Siméon, Lévi, Issachar et Zabulon. Judas, Issachar et Zabulon sont les trois tribus de la division de l'Est et les premiers dans l'ordre de marche. Ils sont suivis par Lévi en tant que le sacerdoce et Ruben, Siméon et Gad de la division du Sud et les suivants dans l'ordre de marche. Comparez Nombre chapitre 10. Ruben avait perdu son droit d'aînesse et Siméon a été dispersé à cause de sa cruauté. Nous voyons qu'il est question du peuple d'Israël, qui incluait la nation appelée les Juifs. Issachar et Zabulon leur étaient associés et étaient à ce moment-là au nord d'Israël. Les cinq frères sont tout simplement une référence au fils de Léa, qui identifierait clairement Judas en rapport de ses demi-frères, qui étaient le reste des tribus. Nous lisons dans Luc, chapitre 16, à partir du verset 29 à 31. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Version Louis II. Dans ce passage, nous voyons qu'Abraham leur dit qu'ils ont Moïse et les prophètes pour les enseigner. Le texte clair et positif dit qu'ils n'ont pas entendu Moïse et les prophètes. Ils ont ainsi perverti la loi en déformant l'esprit de la loi. C'est aussi ce que Paul dit. La question est ensuite placée dans la bouche d'Abraham par le Messie, visant la très faible possibilité qu'il puisse écouter quelqu'un venant des morts s'il ne voulait pas écouter la loi. La résurrection de Lazare a ainsi été donnée en parabole et ensuite réellement accomplie pour démontrer la puissance de Dieu et le message du Messie dans l'application correcte de la loi. Christ a été ridiculisé pour le message. Il savait qu'il parlait contre les pharisiens, entre parenthèses, qui sont devenus plus tard le système rabbinique. Christ a accompli le miracle et ils l'ont détesté pour cela. Ils ont conspiré pour le mettre à mort, de même que l'homme qu'il avait ressuscité. Ils l'ont ensuite mis à mort et plus tard les élus qui le suivaient, parce qu'il était le Fils de Dieu. Cette histoire n'a absolument rien à voir avec les concepts du ciel et de l'enfer ou de la doctrine de l'âme immortelle. Elle traite du salut de Judas et de leur refus d'entendre la loi et la parole de Dieu. Elle traite de leur expulsion et de leur dispersion. C'est une prophétie faite directement par le Messie de la résurrection de Lazare, qui a été un signe et un prodige puissant qu'il a accompli pour montrer à Judas le danger dans lequel ils étaient. Ils n'ont pas écouté, de même que le christianisme dominant n'écoute pas aujourd'hui. Fin de la lecture de l'étude « Lazare et l'homme riche », étude numéro 228, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site ccg.org. Merci de votre attention et à très bientôt.